Voilà, donc ce matin, on veut partager sur un thème que nous n'abordons pas très souvent dans nos églises aujourd'hui. Surtout des fois que le mot qu'on utilise pour cela, le mot crainte, est utilisé en français dans deux définitions différentes, vraiment presque contraires l'une de l'autre. Aujourd'hui, on a vraiment parlé beaucoup de l'amour de Dieu et c'est très bien. Et on va voir comment que justement, aujourd'hui, peut-être que dans nos sociétés, je veux dire chrétiennes, on a des fois surtout peut-être plus l'habitude de parler beaucoup de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous donne, l'amour que Jésus nous donne, et moins parler de la crainte de Dieu. Alors le thème, c'est As-tu une véritable crainte de Dieu? Pourquoi ce thème est venu? C'est qu'il y a quelques semaines, comme vous savez, je continue de suivre un peu un mentorat avec Church Renewal, qui est donc un ministère pour encourager les leaders à vraiment être. Avoir un renouveau dans leur vie dans le Seigneur, avec le Seigneur. Et on a parlé de ce thème, de l'importance de la crainte de Dieu personnellement, mais aussi dans l'Église. Alors, je vous encourage aujourd'hui à noter, parce qu'on va avoir beaucoup de versets bibliques, parce que, étant donné que c'est un thème qui est cher, donc on le voit beaucoup dans la parole de Dieu, c'est important qu'on se base sur la parole de Dieu et qu'on puisse voir qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que les auteurs inspirés par le Saint-Esprit ont dit aussi par rapport à cela. Alors, on veut vraiment qu'on puisse ouvrir notre cœur et comprendre aussi ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, on te remercie pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin de venir dans ta présence et de pouvoir goûter, Seigneur, à travers ce temps de prédication, Seigneur, à ta parole, de pouvoir comprendre, saisir ce que tu veux nous dire à travers ce thème. Ce thème, Seigneur, qui t'est très cher et que nous devons aussi développer, avoir dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que notre esprit, Seigneur, puisse vraiment être dirigé par toi, concentré vers toi. Et que ce soit, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, ne soient pas les paroles qui viennent de ma bouche, mais soient tes paroles à travers le Saint-Esprit, puissent nous éclairer, nous inspirer, nous encourager pour avancer avec toi. Nous te remercions, te louons parce que, Seigneur, c'est toi qui es notre Seigneur et notre Dieu et nous voulons, Seigneur, avoir cette véritable crainte de toi. Nous t'en prions ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, prochain dia, donc on va voir en français, comme on a dit, le mot crainte a comme deux significations. Voilà pourquoi peut-être qu'on n'utilise pas beaucoup le mot crainte dans nos églises, parce que des fois, les gens peuvent dire, OK, est-ce que c'est la crainte? De quelle crainte tu parles? Alors, la première signification, la première crainte est une peur, hein? Le dictionnaire dit, fait de craindre quelque chose, quelqu'un, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, de peur, d'appréhension. Par exemple, la crainte de l'échec le paralysait, hein? Des fois, justement, nos jeunes, des fois, quand ils arrivent devant les examens, hein, la crainte, la peur, là, les stressent tellement qu'ils sont bloqués devant l'examen et ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Donc, oui, cette première définition, souvent, on a cette crainte, cette peur, cette appréhension devant quelque chose qui se passe. Donc, on connaît tous, à un moment donné, devant une situation ou devant un événement où on a cette crainte. Et dans la Bible, nous retrouvons souvent aussi des textes bibliques qui nous parlent de personnes qui ont eu peur de Dieu, qui ont eu la peur, que la crainte que Dieu se manifeste et agisse contre ces personnes. On peut le voir, le premier homme, Adam, rappelez-vous, hein, Adam qui a été créé à l'image de Dieu, était dans le jardin avec sa compagne Ève et à chaque soir ou à chaque jour, Dieu venait les visiter, Dieu venait leur parler comme on parle face à face. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et on le voit dans Genèse chapitre 3, verset 10. Là, j'ai pris la version Ostwald. Il dit, et il répondit, donc Adam répondit, parce qu'il s'est caché, de Dieu. Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint, parce que je suis nu et je me suis caché. Avant, il ne connaissait pas la peur. Mais lorsqu'il a péché, lorsqu'il a mangé le fruit défendu, à ce moment-là, il a eu peur. Il a eu peur de mourir. Il a eu peur parce qu'il avait désobéi à Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'ai craint et je me suis caché. Donc c'est la crainte d'un châtiment, d'une punition qui a fait que justement Adam se cache de Dieu. Le dictionnaire biblique va dire de cette crainte, la crainte qui est une conséquence du péché et l'angoisse de l'homme devant un réel danger ou supposé. Sans cesse, l'homme est dans la crainte car sa vie, ses biens et son environnement sont menacés. Il a aussi peur de la mort, des démons ou des puissances invisibles. Et ça, c'est vrai. On craint. Aujourd'hui, on met des caméras partout, hein? On craint parce qu'on croit que quelqu'un veut nous voler. On ferme nos portes comme il faut. On fait attention, nos sacs et comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement, on est peut-être dans une situation ou dans un environnement, contexte, que oui, il y a beaucoup de vols, beaucoup de choses. Mais on craint même la mort. On craint les démons, les puissances invisibles. On le voit dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Vous pouvez le noter. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Jésus va dire qu'on ne doit pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, c'est-à-dire notre corps physique, mais celui qui peut faire tuer l'âme, c'est-à-dire celui qui, l'ennemi, Satan, qui veut nous détruire, c'est vrai, il veut tuer notre espoir, mais il veut surtout aussi tuer que nous ne puissions pas avoir cette grâce, nous ne puissions pas avoir ce salut par le Seigneur. Et aujourd'hui, cette crainte, cette peur face à nos biens, face à la mort est toujours encore très visible. Il y a beaucoup d'impact encore qui se fait. Prochain dia. Maintenant, on va voir la deuxième définition du mot crainte. Dans le sens contraire de la première définition, et si on va le regarder dans le sens de la crainte de Dieu, voici ce qu'il est dit dans le dictionnaire biblique. La crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette attitude était fondamentale. Cette crainte est inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements et haïsse le mal. Donc on voit que dès l'Ancien Testament, cette attitude de la crainte de Dieu était grande, afin que justement l'homme puisse obéir aux commandements et haïsse le mal. On le voit même que justement dans l'Ancien Testament, que personne ne pouvait voir Dieu en face, parce qu'ils savaient que s'ils voyaient Dieu en face, ils allaient mourir à cause de la sainteté de Dieu. Même les Israélites ne prononçaient pas directement le mot Dieu, parce qu'ils étaient trop saints. Ils avaient la crainte pour le Dieu trois fois saint. Donc cette définition de la crainte, c'est-à-dire de révérer, d'honorer Dieu trois fois saint, celui qui est omniscient, c'est-à-dire qui connaît toutes choses, celui qui est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout, celui qui est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout-puissant. La crainte du Seigneur doit être utilisée pour désigner justement que nous sommes dans la confiance, dans la foi totale en Dieu et que nous voulons l'honorer, que nous voulons le révérer pour toute sa toute-puissance et pour tout ce qu'il est pour chacun de nous. Job chapitre 28, verset 28 dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Donc on voit comment que justement, dès l'Ancien Testament, il dit, si vous avez cette crainte du Seigneur, vous allez être intelligent, vous allez pouvoir discerner le mal du bien, vous allez pouvoir vivre vraiment une connexion nouvelle aussi avec le Seigneur. Prochain dia. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a dit, comme on l'a souligné tout à l'heure, on parle plus souvent de l'amour. C'est vrai que l'amour de Dieu est important. Ça nous permet d'être en communion justement avec Dieu, de vivre l'expérience de cette vie abondante, vie de joie, de paix, de plénitude, d'espoir que nous avons en notre Seigneur. Même la plupart de nos chants modernes parlent de l'amour de Dieu, comme le dernier chant que nous avons chanté. Et on a besoin aussi de vivre autre chose, c'est-à-dire d'avoir la crainte du Seigneur. C'est vrai qu'on a peu de chants aujourd'hui qui parlent de la crainte de Dieu. Le roi David va dire dans Psaume 103, ouvrons notre Bible dans Psaume 103, et regardons que dans trois versets de ce psaume, il souligne trois fois le lien entre l'amour du Seigneur et la crainte du Seigneur. Le Psaume 103, verset 11, il dit, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant sa bonté est grande, son amour est grand, autant pour ceux qui le craignent. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a la compassion de ceux qui le craignent. Hein? Dieu a compassion de ses enfants si nous le craignons, si nous sommes dans cette crainte véritable de Dieu. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Encore, la bonté, l'amour de Dieu dure pour ceux qui craignent le Seigneur. On voit dans ce psaume l'importance de David qui dit justement ce lien d'amour du Seigneur, que nous devons aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute force, de tout notre esprit, comme le premier commandement que Dieu nous donne. Mais nous devons craindre aussi, c'est-à-dire révérer, honorer Dieu vraiment dans tout ce que nous sommes en tant que personnes. Le défi aujourd'hui, c'est que souvent nous prenons Jésus comme un ami, avec quelqu'un qui nous parle, qu'on peut créer une amitié. Et c'est vrai, parce qu'on dit Jésus est venu pour nous sauver. Puis Jésus, on le voit dans la vie qu'il était sur terre avec ses disciples, il voulait créer cette amitié, il voulait avoir cette connexion sincère avec les personnes. Et on le voit dans la Bible, quelquefois, comment que on parle qu'une personne est un ami de Dieu, comme Abraham. Hein? Abraham a tellement fait les choses selon Dieu qu'il était appelé ami de Dieu. Mais on voit comment Abraham, même si c'est l'ami de Dieu, comment qu'il le révère, comment qu'il craint Dieu, comment qu'il se prosterne devant lui lorsqu'il le voit aussi à travers un ange et comme ça. Donc, une amitié avec Jésus ne va pas diminuer la sonnerie qu'il a dans notre vie, ni le respect, l'honneur et la soumission qu'on lui doit. Mais souvent, aujourd'hui, et des fois on l'entend des fois dans nos prédications ou dans nos conversations, qu'on va prendre Jésus comme un copain. Hein? Jésus, c'est un bon copain pour moi. Hein? Je peux lui parler en face, c'est comme ça. Mais le problème d'être un copain, c'est qu'un copain, c'est vrai qu'on peut tout lui dire, mais un copain, il ne va pas nous rabrouer hein? Parce qu'il nous aime, il nous respecte. Il ne va pas nous dire, bah, tu fais quelque chose de mal ou comme ça. Il ne va pas nous reprendre par rapport à nos péchés, à nos erreurs. Et souvent, on dit, ah ben oui, Jésus est plein de grâce, donc voilà pourquoi qu'on peut prendre Jésus comme un copain. Mais il faut faire attention. Jésus n'est pas notre copain et on ne devrait jamais le désigner comme tel. Oui, Jésus veut être notre ami, mais il reste le Seigneur des Seigneurs. Il reste le roi des rois. Alors, prochain dia, regardons dans la Bible ce que la véritable crainte de Dieu, est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle nous amène. Ouvrons notre Bible dans le Proverbe. Le livre de Proverbe est un livre qui est plein de beaux proverbes, comme on dit, de belles phrases. Et une grande partie des 9 premiers chapitres de Proverbes parle justement de l'importance de la crainte de Dieu. Dès les premiers instants, donc on voit Salomon va dire dans Proverbes chapitre 1, verset 7, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. » La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Donc le commentateur biblique MacArthur va dire par rapport à ce texte, il va dire « Le fondement de toute connaissance et toute sagesse, c'est cette crainte faite de respect, d'admiration et de soumission vis-à-vis de Dieu. » Il continue en disant, « Le non-croyant peut formuler de belles pensées au sujet de la vie et de la vérité, mais il n'a pas accès à la véritable connaissance, à la connaissance suprême, tant qu'il n'entre pas dans cette relation rédemptrice avec Dieu. » Oui, on peut aimer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Dans le sens que oui, ben, Dieu est bon, Dieu est grand grâce, oui, j'aime Dieu parce qu'il fait des bonnes choses. Mais il y a peu de personnes qui ont vraiment une vraie véritable crainte de Dieu. Parce que pour avoir une crainte de Dieu, il faut beaucoup plus que juste aimer. Il faut suivre ses préceptes, il faut suivre ses commandements, il faut écouter les enseignements de sa volonté et de les suivre. Plus loin, dans Proverbes chapitre 14, verset 27, il est dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Donc, cette crainte de l'Éternel est une source de vie. Une source, c'est quelque chose qui jaillit en nous, qui nous donne la vie, qui nous réjouit. Donc, d'avoir cette crainte, d'avoir cette révération pour le Seigneur, cet honneur, ce respect pour le Seigneur nous permet justement d'avoir cette source de vie, d'avoir cette joie, cette plénitude du Seigneur en nous. Prochain dia, il y a aussi justement la crainte ou la révérence envers Dieu que les hommes peuvent avoir devant une situation qui les dépasse ou qui les impressionne. Hein? Regardez, rappelez-vous dans Actes chapitre 2, verset 43, au début de la vie de l'Église, lorsque justement les disciples ont commencé à partager l'Évangile, il y a eu des hommes et des femmes, des milliers de personnes qui sont converties. Il y a eu des signes, des prodiges, des guérisons et les gens étaient impressionnés. Regardez Actes chapitre 2, verset 43. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Si vous regardez le mot impressionné, le mot grec, c'est phobos, qu'on traduit habituellement par crainte. Ça veut dire que Le contexte indique clairement que le peuple était dans une crainte respectueuse de la manifestation de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Le peuple voyait ce que les disciples et les apôtres faisaient, et ils avaient cette crainte de Dieu. Ils ont dit, mais waouh, on le fait parce que Dieu fait de grandes choses. Alors c'est vrai qu'on ne va pas forcément voir cette crainte respectueuse envers Dieu, mais un jour lorsque Dieu apparaîtra, tout le monde va reconnaître la puissance de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, les gens connaissent Dieu. Ouais, Dieu est bon, Dieu nous aime, etc. Mais Dieu veut beaucoup plus que cela. Lorsqu'on a cette véritable crainte de Dieu, Dieu va se manifester et Dieu va faire de grandes choses. Et on va le voir. On le va voir un jour que Dieu va être là avec nous. Lorsque Jésus va revenir ici, il va faire quelque chose de grand. Tout le monde va le reconnaître, tout le monde va savoir que Jésus est revenu. Et tout le monde devront dire, même vont mettre, se prosterner, vont mettre un genou à terre devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant. L'idée, c'est que le Seigneur veut nous faire connaître Dieu à travers tout le peuple de la terre et leur donner des preuves de son action. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, il veut encore faire des signes et des prodiges. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, même si le peuple peut-être rejette Dieu, ils ont besoin de voir à travers les signes la puissance du Saint-Esprit, à travers ce que Dieu fait à travers nous. Voir que Dieu agit et que Dieu peut vraiment faire de grandes choses et qu'ils puissent dire, oui, Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Prochain dia, on voit aussi la crainte de Dieu par rapport que ça comporte dans le sens de respect ou de confiance, de dévotion. Mais il y a aussi la crainte du Seigneur qui peut être utilisée dans le sens que nous craignons le déplaisir, la discipline ou le jugement de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 17, il nous dit, Et si comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir. Remarquez que Pierre ne dit pas conduisez-vous avec amour, comme nous aurions pu attendre, mais conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Donc nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et tout le monde le comprend, c'est vrai. Même ceux qui ne suivent pas justement Dieu peuvent aimer Dieu. Mais en plus, nous devons avoir cette crainte, cette révérence envers un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Et beaucoup de gens ne l'ont pas parce que ça demande un effort, ça demande vraiment un désir réel de s'approcher de Dieu, de avoir véritablement une crainte afin de lui obéir, afin de se conformer à sa volonté et suivre ses enseignements. Et le prochain dia que nous devons avoir très important, c'est les églises doivent craindre le Seigneur. Les églises doivent craindre le Seigneur. La plupart des chrétiens disent, savent que Jésus aime l'église, qu'il s'est sacrifié pour elle. On sait très bien le verset de Éphésiens 5, verset 25, qui dit, Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et c'est vrai que Christ s'est sacrifié pour l'église, pour aimer l'église. Mais nombreux, mais moins nombreux sont ceux qui considèrent que Jésus va évaluer et juge également ces églises, et maintenant encore. On a lu justement dans ces derniers temps, on a étudié les églises dans l'Apocalypse. Et on a vu comment que l'ange du Seigneur donnait des réprimandes, donnait des avertissements aux différentes églises, parce qu'ils ne suivaient pas les principes de Dieu. Et on lit cela, puis on dit, ah ben ça c'est pour les églises d'avant. Non, non. Aujourd'hui encore, Dieu juge les églises. Et on va regarder, ouvrons notre Bible dans Apocalypse. Et on va regarder justement pour nous rappeler que Jésus veut nous féliciter lorsqu'on marche avec lui, mais il veut aussi être capable de faire des reproches lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas justes. Et Jésus va encore évaluer chacun de nous. L'Église, c'est chacun de nous. Donc Dieu évalue jour après jour notre comportement de ce que nous faisons avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 19 dit, Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Ça, c'est des fois un mot qu'on n'aime pas. On n'aime pas la correction. On n'aime pas que Dieu nous corrige. Hein? Même quand on était enfant, on n'aimait pas que nos parents nous corrigent parce qu'on avait fait une bêtise et comme ça. Parce qu'il y avait des conséquences. Peut-être des fois, une petite tape ou d'autres comme ça faisait mal. Des fois, c'est vrai que lorsque le Seigneur nous corrige, ça fait mal. Mais c'est toujours pour nous apprendre, pour que nous puissions pour avoir du zèle pour le Seigneur. Jésus veut encore aujourd'hui nous avertir en tant qu'Église qu'il faut changer, qu'il ne faut pas juste peut-être continuer comme on faisait les choses parce qu'on avait l'habitude de le faire. Mais il faut abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Il faut se repentir de nos péchés, de nos manquements. Et Pierre va le dire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. En Pierre chapitre 4, verset 17, il dit, en effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ce verset, il est clair. Et sans qui vote. Jésus va venir juger la terre et il va commencer par l'Église. Pourquoi qu'il va commencer par l'Église? Parce que ce sont les personnes qui se rassemblent sous son regard. Ce sont les personnes qui se sont repenties, qui ont accepté la grâce, la bonté de Dieu. Ce sont les personnes qui veulent suivre Dieu, qui suivent les enseignements, qui comprennent la parole de Dieu. Donc, il veut, premièrement, corriger, il veut juger ceux qui sont déjà avec lui. Prochain dia. Parfois, lorsque nous rencontrons justement des difficultés dans l'Église, on suppose que c'est le diable qui se bat contre nous. Et c'est vrai que souvent, c'est le cas. Mais on peut aussi envisager une autre possibilité. Est-ce que ça pourrait s'agir que le Seigneur de l'Église qui se bat contre nous? Est-ce que c'est possible que le Seigneur Jésus veut nous discipliner, veut nous corriger parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas juste? Rappelez-vous ce que l'ange du Seigneur va dire de la part de Jésus. Et regardez, ouvrons notre Bible dans l'Apocalypse, chapitre 2. On va voir justement, se rappeler ces différents messages que Jésus donne à travers l'Esprit de Dieu à ses églises. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta première conduite. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place et si tu ne changes pas. Il va lui dire à cette église. Si tu reviens pas à ton premier amour, là, je vais ôter ton chandelier. Ça veut dire que je vais t'enlever de ma face. C'est grave, c'est grave. Il ne dit pas, oui, si tu as perdu ton premier amour, là, ben, continue, essaie de changer un petit peu, puis ça va aller. Non, 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 non. J'ôterai ton chandelier. À une autre église, Apocalypse chapitre 2, verset 16, il va dire qu'il va combattre de sa bouche. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. On sait que l'épée qui sort de la bouche, c'est la parole de Dieu, c'est à travers des enseignements. Donc Jésus va venir et il va dire, les enseignements que vous avez reçus de la parole de Dieu, vous les connaissez, mais vous ne les suivez pas, mais je vais vous condamner à travers ces enseignements. Prochain dia. On le voit dans Apocalypse chapitre 2, verset 21. Il va dire dans une troisième église, il va la jeter sur un lit de souffrance. S'il ne se repent pas. Apocalypse chapitre 2, verset 21-23. Je lui laissais du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle, ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. C'est grave, c'est grave. Jésus lui laisse le temps pour qu'elle change, mais si elle ne change pas, il va la jeter sur un lit de souffrance. Une quatrième église, on peut le voir dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, que Jésus a prédit qu'il les cracherait de sa bouche. Mais puisque tu es tiède, chapitre 3, verset 16, mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est pas non plus un message très reluisant. Donc, si on voit ces messages, le Seigneur nous avertit. Que si nous n'avons pas une véritable crainte du Seigneur, si nous ne suivons pas ce qu'il nous demande, il va nous juger en premier. Voilà pourquoi que nous avons besoin, jour après jour, d'être dans l'humilité, de la repentance du Seigneur. Il y a peut-être des choses que j'ai faites qui ne te plaisent pas. Il y a des choses peut-être que j'ai besoin encore d'être changé. Voilà pourquoi aussi que régulièrement nous prenons la Sainte Cène que nous allons prendre tout à l'heure pour nous rappeler tout ce que Jésus a fait sur la croix. Pour nous rappeler, c'est vrai, oui, tout l'amour qu'il a fait pour nous, mais aussi tout ce qu'il nous demande pour pouvoir continuer de marcher en véritable disciple de Jésus-Christ. Sinon, on ne s'arrête pas pour demander, écouter dans la prière. Il se peut que nous ne connaissons pas la source du problème que nous avons et que nous nous battions en effet contre le Seigneur. Les amis, les avertissements sont clairs et précis et vont s'appliquer encore aujourd'hui pour nos églises. C'est pourquoi qu'on a besoin justement, qu'on a dit, de s'humilier, de se repentir. Parce que la condamnation va venir aussi sur nous. On aura aussi les conséquences de nos actes, même si nous sommes sauvés. Alors, prochain dia, comment grandir? Comment grandir personnellement dans la crainte du Seigneur? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de moyens de croître dans la crainte du Seigneur et je vais vous en partager quelques-uns que justement Church Renoval nous proposait justement dans ces temps de réflexion par rapport à ce thème. Premièrement, considérer les conséquences de la désobéissance dans la vie des autres. Lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de passages. Il est parlé des Israélites qui n'ont pas respecté les ordres de Dieu. Et comment que Dieu les a condamnés. Comment qu'à travers des prophètes, il a dit, changez, repentez-vous. Si vous ne changez pas, vous allez vivre les conséquences. Et même on le voit, Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces malheurs leur arrivèrent. Donc il parle de justement des Israélites. Ces malheurs leur arrivent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons à nos temps proches de la fin. On doit observer les conséquences de la désobéissance du péché dans la vie des autres. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit tous ces avertissements. On ne peut pas juste dire, oh oui, ça c'est pour Israël, pour le peuple juif avant. Mais si Dieu a mis tellement d'énergie, tellement envoyé tellement de prophètes pour avertir son peuple, hey, les amis, changez, repentez-vous. Il veut encore nous avertir aujourd'hui, comme nous venons le voir aussi à travers ces différents livres, différentes lettres d'Apocalypse. Deuxièmement, méditer sur la bonté et la sévérité de Dieu. Alors ça, on n'aime pas trop entendre ces deux mots dans la même phrase. Méditer sur la bonté et la sévérité de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous le roi Josias de Judée, à un moment donné, a voulu mettre les choses en clair dans la vie de son peuple, a fait des réparations du temple et à un moment donné a trouvé le livre de la loi. Et lorsqu'on lit le livre de la loi, ça a suscité en lui une crainte du Seigneur. Et il a fait toutes sortes de corrections nécessaires pour éviter le jugement de Dieu. Il était sûr que si, en lisant ces textes, s'il ne changeait pas, que cette condamnation ou ces conséquences qui étaient écrites dans le livre de la loi allaient se faire. Romains chapitre 11, verset 22, Romains chapitre 11, verset 22 dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement aussi toi tu seras retranché. C'est clair que Paul va le dire dans Romains. Oui, considère la bonté et sévérité de Dieu. Donc lorsqu'on considère intentionnellement la bonté de Dieu, on médite sur sa bienveillance, on médite sur sa miséricorde, sa grâce, sa patience envers nous et on le remercie pour cela. Mais ça veut aussi dire que Paul nous le dit. Qu'on doit aussi considérer la sévérité de Dieu. Dans le sens que, oui, Seigneur, est-ce que je tolère encore le péché dans ma vie? Est-ce que je tolère de faire des choses qui ne t'honorent pas? Tu m'avertis dans la parole, à travers les Écritures, à travers le Saint-Esprit qui est en moi. J'ai besoin aussi de me repentir. J'ai besoin aussi de faire attention, parce que sinon je vais connaître aussi ta sévérité. Troisièmement, prochain dia. Tenir compte de toute discipline passée que vous avez connue. Donc la discipline est enseignée dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Voici quelques éléments à retenir. Le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous restons peut-être là où nous sommes. Il veut nous faire avancer. Alors il nous discipline. Il nous permet de voir si peut-être il y a des choses qui ne sont pas à son honneur. Il y a peut-être des choses aussi que peut-être qu'on a besoin d'abandonner, qui ne sont pas forcément des péchés, ou des erreurs, mais qui prennent trop d'énergie pour nous, qui prennent trop de temps. Et il dit, laisse de côté cela. Le Seigneur aussi discipline chacun de ses enfants comme le ferait un père et une mère sur terre. Et on le sait, en tant que parent, en tant qu'enfant, on a été discipliné. Des fois, ça fait mal. Mais lorsque on rappelle de ce qu'on a vécu, on sait que c'était pour notre bien. C'était pour nous montrer la bonne voie à suivre. Le Seigneur veut discipliner ses enfants parce qu'il les aime, parce qu'il veut le bien pour eux. Si vous ne recevez jamais discipline, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Waouh, c'est une bonne phrase, hein? Si vous ne recevez jamais de discipline, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous corriger. Dieu ne veut pas nous laisser là où nous sommes. Dieu veut nous faire avancer jour après jour. Même après 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, il y a encore besoin de correction, il y a encore besoin de discipline. Hébreux chapitre 12, verset 11 dit, « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. » La justice, d'être vrai, d'être libre, d'être juste. Alors oui, c'est vrai, on n'aime pas la correction, même en tant qu'adulte. Puis on croit, aujourd'hui on est dans un monde où oui, on se plaît à dire que Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Et moi, je suis le premier à le dire que Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Mais lorsque j'ai étudié, lorsque j'ai lu ces différents passages, je me suis rappelé que je dis oui Seigneur, cette crainte du Seigneur, cet honneur du Seigneur, je dois être là aussi. Je dois aussi la mettre. Je dois aussi pouvoir la vivre jour après jour. Trop de chrétiens, justement, considèrent que le mal dans leur vie peut être la discipline de Dieu. Ils supposent que c'est une attaque de l'ennemi. C'est vrai qu'on aime préférer dire, ah oui, quand arrive quelque chose de difficile dans notre vie, de dire, ah oui, ça c'est Dieu, c'est l'ennemi qui arrive sur nous. Et quand justement j'étudie, je vis des choses, peut-être pour certains ils le savent aussi, je vis des choses difficiles en ce moment aussi. Et ma première réaction, je dis, mais ça, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi qui est en train de nous attaquer. Bien, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais peut-être que Dieu est en train de te corriger. Mais non, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas, non, je suis juste, je te suis, j'essaie de faire le mieux possible. Non. Peut-être que Dieu veut que tu prennes plus de temps peut-être pour lui. Dieu veut encore peut-être encore changer des choses dans ta vie. Dieu veut peut-être enlever encore changer des choses dans ton caractère. On doit continuer de nous interpeller parce que des fois, c'est la discipline de Jésus lorsqu'arrivent des situations difficiles dans notre vie. Alors, prochain dia, rappelez-vous que ce que l'Esprit dit à chaque église dans les lettres de l'Apocalypse, chaque église à la fin, il y a toujours ce même verset. Apocalypse chapitre 2, verset 29, mais il y a dans toutes les églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute. Beaucoup d'églises, de croyants sont complètement inconscients du fait que Jésus les avertit. Si on ne grandit pas dans la crainte du Seigneur, si vous ne voulez pas écouter ce que l'Esprit a à vous à dire sur le péché dans votre vie, dans les erreurs, dans les choses que vous avez besoin d'améliorer, alors vous risquez d'être retranché, vous risquez de perdre certaines choses. Et là, je ne suis pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous condamner, mais nous rappeler que oui, encore aujourd'hui, même si nous sommes sous la grâce de Dieu, Jésus va venir nous juger. Et en premier, l'Église, les chrétiens. Il va demander, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait des avertissements que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait des moments de discipline? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as appris de ces moments-là? On doit être capable d'entendre autant les éloges, les bénédictions de la part de l'Esprit, autant les réprimandes, les avertissements, afin qu'on puisse continuer de grandir. Donc ce matin, nous sommes encouragés à avoir cette véritable crainte de Dieu. Que cette crainte doit augmenter, se développer au fur et à mesure de notre cheminement avec Dieu. Ne pas jouer avec Dieu. Ne pas prendre Jésus comme un copain pour dire « tout va bien, tout va bien. Je continue ma vie, puis… » C'est correct, Seigneur, il est plein de grâce, il me pardonne, je demande pardon. Oui, Dieu, Jésus veut nous pardonner. Mais si nous continuons dans le péché, il y aura aussi des conséquences aussi. On l'a vu dans les lettres aux églises. J'aimerais qu'on puisse, je vais vous passer un petit chant sur la crainte de Dieu. et qu'on puisse réfléchir à cela avant de prendre le repas du Seigneur. Mais aussi, rappelez-vous, au mois de mars, quand on avait conclu la série sur les lettres de l'Apocalypse, on avait demandé aux gens d'écrire sur un bout de papier ce qu'ils devaient peut-être changer, ce qu'ils devaient peut-être revivre par rapport à justement ces exemples dans ces églises. J'aimerais que Jeanne, tu puisses, l'enveloppe que tu vois ici, tu puisses distribuer ce qui était là, ce petit mot, pour voir si depuis le mois de mars, il y a quelque chose qui a changé. Parce que c'est vrai que l'idée de d'écrire, c'est de dire, ben Seigneur, oui, quand j'étudie les différentes lettres de l'Apocalypse, je vois certaines choses, certaines reproches, certaines bonnes éloges que tu fais. Alors je veux changer, je veux pouvoir retrouver mon premier amour, je veux pas avoir de compromis dans ma vie, je veux vraiment avoir du zèle pour toi. Alors, peut-être que vous avez écrit quelque chose, mais peut-être que vous n'avez pas fait. Alors, c'est le temps de repentance, c'est le temps de dire, Seigneur, oui, j'ai manqué. Peut-être que je t'avais promis que j'allais faire un effort. Peut-être que j'avais promis de prendre plus de temps avec toi ou de faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon. Je veux avoir cette crainte de vraiment faire ce que tu me demandes de faire. Alors, Jeanne, tu peux distribuer aux personnes. Normalement, il y a le nom qui est sur le dessus de du petit papier. Et pendant ce temps-là, on va écouter ce chant et nous préparer. Le Seigneur veut, à travers le repas du Seigneur, nous rappeler tout l'amour qu'il a pour nous. Comment qu'il veut nous pardonner, comment qu'il veut nous racheter à très grand prix, même encore aujourd'hui, en ce dimanche 2 juin. Mais il veut nous rappeler aussi aujourd'hui qu'il va revenir un jour et qu'il va venir nous juger. Il va nous venir nous juger pour voir ce que nous avons fait était juste, de voir si toutes les réprimandes ou les avertissements qu'il nous a donnés a permis d'être changé. Alors d'être prêt à demander grâce, pardon, et à dire Seigneur, oui, je veux encore plus t'honorer, je veux encore plus te glorifier parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Alors écoutons ce beau chant de Corinne Lafitte. Dans cette invitation, des paroles qui sont sincères, qui sont importantes. Si vous vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adressé dans une humble prosternation, cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, Juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de nos vies passées. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi, de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Entends-nous, ô Père miséricordieux, quand nous te demandons humblement de nous accorder, en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en donna à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, on te remercie pour ce rappel à travers ce repas, à travers ces éléments, que tu es venu une fois pour toutes pour nous donner le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie, le salut de notre vie pour l'éternité. Mais Seigneur, nous avons besoin de rappeler régulièrement comment que souvent, Seigneur, nous sommes dans cet état de péché, que souvent, Seigneur, des fois, nous sommes éloignés de toi, que souvent, Seigneur, nous n'avons pas cette véritable crainte de toi. Nous sommes venus encore ce matin, encore nous rappeler à travers ces différents textes que nous avons lus, que en tant que chrétien, en tant qu'Église, tu veux que, Seigneur, nous puissions être justes. Tu veux que nous puissions marcher d'une façon juste et digne devant toi et devant les hommes. Tu nous avertis dans ta parole. Tu nous montres ce que nous devons changer, corriger, améliorer. Et Seigneur, on veut te remercier pour ce corps, pour ce sang qui a été versé. On te remercie, Seigneur, parce que par nous-mêmes, on n'aurait pas pu le faire. Mais toi, tu l'as fait une fois pour toutes pour nous. Et Seigneur, tu nous apprends encore aujourd'hui à continuer d'avoir cette véritable crainte de toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tu es le Dieu qui va revenir, que tout le monde va voir, que tout le monde nous sera obligé de mettre un genou à terre devant toi. Tu nous as dit que tu allais venir et tu nous allais chacun juger selon ce que nous aurons fait. Nous voulons, Seigneur, lorsqu'on va se présenter devant toi, pouvoir, Seigneur, que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans le repos. Nous voulons être ces serviteurs, ces servantes qui auront accompli ta mission, qui auront vécu selon ta parole, qui auront été corrigés, disciplinés, mais qui auront appris et qui auront continué, Seigneur, de te glorifier, de te louer. Alors merci, merci, merci pour ce rappel, merci pour ce thème important d'avoir la crainte de toi, Seigneur, une véritable crainte, afin que, Seigneur, on puisse être changé, qu'on puisse toujours, Seigneur, nous rappeler. Que Seigneur, on ne veut pas être dans la peur. On ne veut pas être dans la peur de l'homme devant ces choses qui arrivent. On ne veut pas avoir de la peur devant toi, Seigneur. Mais on veut, Seigneur, avoir une crainte véritable pour pouvoir corriger, changer, pour avoir du zèle, un nouveau zèle pour toi. Alors merci, merci pour cette occasion que tu nous as permis de nous rappeler ce thème important. Merci pour ce rappel à travers ces éléments que tu viens encore nous pardonner. Tu viens encore nous transformer et on veut te remercier, te louer pour ce sang qui a été versé, pour ce corps qui a été brisé pour nous. Merci Seigneur Jésus. Je te prie que maintenant, Seigneur, que nous allons bientôt nous séparer, que cet amour, que cette grâce, que cette bonté reste, demeure sur nous, que cette crainte de l'Éternel demeure sur nous, puisse nous aider à changer, à continuer d'être des fidèles serviteurs et servantes de toi. Nous te prions, Seigneur, ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.